Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant le salut. Ceci est une deuxième ou troisième série, car il y a eu d'autres dans le passé que vous trouvez sur Internet. 3xW, Bible explique en un seul mot.ch. Aujourd'hui, nous continuons l'étude numéro 2 et je voudrais vous dire simplement ceci, mes chers auditeurs et chères auditrices, que je vous supplie de bien réfléchir. Que vous soyez jeune ou que vous soyez d'un grand âge, comme c'est mon cas, 90 ans, il y a toute raison de penser que vous qui écoutez ces paroles, vous subirez réellement pour toute l'éternité la misère que j'ai expliquée dans le CD numéro 1. Je ne sais pas qui vous êtes, ni où vous vous trouvez, ni quelles sont vos pensées. Peut-être vous sentez-vous à l'aise, et mes paroles ne vous inquiètent absolument pas. Elles ne s'appliquent pas à vous, pensez-vous. Et vous vous assurez de pouvoir échapper à un certain sort final, peu enviable. Comme il est terrible de se dire que un de mes auditeurs, un seul, subira peut-être un tel châtiment. Mais quel horrible spectacle de connaître cette personne. Tout le monde élèverait sûrement un cri lamentable et amer à son sujet. Hélas, hélas, ce n'est pas un, mais ce sont sans doute des millions qui se rappelleront mes propos en enfer. Et il serait étonnant si certains n'y seront pas bientôt, tout au moins avant que l'année ne se termine, si vous visitez un hôpital, n'importe lequel. Vous verrez qu'il y a même des enfants qui luttent dans les hôpitaux entre la vie et la mort. C'est pas moi qui le dis, vous pouvez vous renseigner. Je ne m'étonnerai même pas si vous qui m'écoutez en ce moment, tranquille et en bonne santé, ne soyez parti d'ici demain matin. Tout peut arriver. Un jeune homme est parti un jour, il pleuvait très fort, il voulait aller fêter les 20 ans avec sa fiancée. Or, il était en moto et dans une courbe assez, disons, dangereuse, paraît-il. La moto a glissé, il est mort sur le coup. Il n'a même pas pu aller fêter les 20 ans avec sa fiancée. De toute façon, ceux d'entre vous qui continueront à vivre sans Christ et demeureront hors de l'enfer le plus longtemps, y arriveront cependant avant peu. Votre damnation ne sommeille pas, mais elle vient rapidement et en toute probabilité, elle s'abattra sur beaucoup d'entre vous, et cela très soudainement. pour vous qui êtes toujours vivants aujourd'hui, vous entendez parler de Dieu et vous avez ici l'occasion d'obtenir le salut. Que ne donneraient pas ces pauvres âmes damnées pour une seule occasion comme celle qui vous est donnée et offerte aujourd'hui, en ce moment. Vous vivez donc une occasion exceptionnelle. Un jour où Christ ouvre toute grande la porte de la miséricorde, il s'y tient et il appelle les pauvres pécheurs avec une voix forte. C'est un jour où beaucoup s'approchent de lui et entrent dans le royaume de Dieu. Ils viennent de l'est, de l'ouest, du nord et du sud. Ils sortent de la condition misérable où vous-même gisez, et ils entrent dans un état de félicité, le cœur rempli d'amour à l'égard de celui, oui, de celui qui les a aimés et les a lavés de leurs péchés par son propre sang. Ils se réjouissent dans l'espérance de la gloire de Dieu. Ne faites-vous pas partie de ceux qui ont vécu depuis longtemps dans ce monde sans être toutefois nés de nouveau? Vous êtes étrangers aux alliances de la promesse et depuis le jour de votre naissance, vous vous amassez des trésors de colère. Oh, mes très chers amis, votre cas est extrêmement dangereux. Votre culpabilité et la dureté de votre cœur sont très grands. Ne voyez-vous pas comment cette bénédiction présente et remarquable de la miséricorde de Dieu laisse indifférents beaucoup de vos semblables? Il vous faut réfléchir à votre cas et vous éveiller de votre sommeil. Vous ne pouvez pas supporter l'ardeur de la colère de Dieu infiniment. Et vous, jeunes gens et jeunes femmes, négligerez-vous ce moment précieux dont vous jouissez actuellement à l'écoute de cette invitation de Jésus-Christ? Pour vous en particulier, c'est une occasion extraordinaire. Mais si vous la négligez, vous ne tarderez pas à ressembler à ceux, oui, à ceux qui ont passé toute leur précieuse jeunesse dans le péché et qui gisent maintenant dans l'aveuglement et la dureté de leur cœur. Puisse celui qui n'appartient pas à Christ, qui pend en quelque sorte au-dessus de l'abîme de l'enfer, entendre les appels retentissants de la sainte parole et de la providence de Dieu, quel que soit son âge. Cette année de grâce du Seigneur, ce jour de si grande faveur pour les uns, sera sans aucun doute le temps d'une vengeance remarquable à l'écart des autres. Le cœur de l'homme s'endurcit et sa culpabilité s'accroît rapidement s'il néglige son âme. Ces gens n'ont jamais couru un plus grand danger de se voir abandonnés à la dureté de leur cœur et à la cécité de leur esprit. Si vous refusez mes paroles, vous maudirez à tout jamais le jour où vous m'avez écouté et celui de votre naissance. Vous souhaiterez avoir été déjà mort et avoir rejoint l'enfer avant le jour présent. Alors que tous ceux qui aujourd'hui n'appartiennent pas à Christ s'éveillent en fuyant la colère à venir, la colère du du Dieu Tout-Puissant surplombe sans aucun doute la plupart de notre race en ce moment même, oui, je vous demande, sortez de Sodome. Mon ami, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Consulte le vieux livre, la Sainte Bible, au tout début, dans la Genèse, chapitre 19, verset 17, et tu comprendras ce que je viens de te dire. Chers amis, voici une bonne nouvelle. Il y a un plein pardon au pire des pécheurs. Il est dit au psaume 25, verset 1, « C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. » Psaume, chapitre 25, verset 1. À l'évidence, le roi David rédige ce psaume en un temps d'affliction et de danger. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet, verset 15. Son désarroi l'amène à penser à ses péchés, à les confesser et à implorer le pardon de Dieu comme cela est convenable au jour de l'affliction. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions, dit-il. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Versets 17 et 18, j'ai dit le psaume chapitre 25. Le psalmiste utilise plusieurs arguments pour plaider le pardon à cause du nom de Dieu. Il n'a aucun espoir de pardon en vertu d'une quelconque justice ou d'un mérite venant de lui-même pour quelques bonnes œuvres accomplies ou pour quelques compensations fournies pour ses péchés. Si la justice d'un homme possédait quelque valeur, David n'était pas des moindres, croyez-moi. Mais Il demande le pardon de Dieu à cause du saint nom de ce dernier pour sa gloire et celle de sa grâce souveraine, ainsi qu'en raison de l'honneur de sa fidélité à l'Alliance. David ne plaide pas sa propre justice. L'insignifiance de ses péchés, pas du tout. David dit au contraire, il dit « Pardonne mon iniquité, car elle est grande ». Il plaide donc l'énormité de son péché et il renforce sa prière en soulignant le côté haïssable. Pourquoi alors implorer le pardon? Parce que la grandeur de son iniquité donne la mesure de son besoin de pardon. Comme s'il disait « Mon iniquité est si grande que je ne puis en supporter la punition. Mon péché est si grand que j'ai un besoin absolu de pardon. » Je serai dans une misère extrême si tu ne me l'accordes. Quand un homme en détresse implore la pitié, quelle supplication plus appropriée a-t-il que l'extrémité de son cas? Et Dieu reçoit une telle supplication, car seul la misère de notre cas le touche de compassion envers nous. Il ne prend pas pitié des pécheurs en raison de leur dignité, mais pas du tout, mais parce qu'ils ont besoin de sa pitié, de sa compassion, de son amour. Nous voyons donc ici une grande vérité. Si nous venons à Dieu chercher véritablement sa miséricorde, la grandeur de notre péché ne sera jamais un obstacle au pardon. Sinon, David ne l'aurait jamais invoqué pour l'implorer comme il le fait ici. Mais certaines étapes sont nécessaires afin de venir vraiment à Dieu pour recevoir sa miséricorde. L'homme qui ne sent pas sa misère ne peut pas vraiment se tourner vers Dieu pour recevoir sa miséricorde. La notion même de la miséricorde de Dieu est en effet quelle est sa bonté et sa grâce envers le misérable. Elle ne peut pas s'exercer envers un objet qui est sans misère. Parler de miséricorde en l'absence de misère ou de pitié sans calamité, cela est une contradiction dans les termes. Ainsi, personne ne peut se voir comme un objet légitime de miséricorde à moins de se savoir déjà en proie à la misère. Dans ce préalable, il est impossible que l'homme vienne à Dieu pour obtenir miséricorde. Il doit avoir conscience de son état d'enfant, de colère, de l'opposition de la loi à son égard et de son exposition à sa malédiction. Les hommes doivent sentir que la colère de Dieu repose sur eux, oui, sur eux, tout le temps où ils demeurent sous la culpabilité du péché. Il leur faut comprendre quelle est la gravité de leur état en tant qu'objet de la colère de Dieu. Il est horrible de l'avoir pour ennemi et personne ne peut supporter sa colère. Donc, ils doivent voir que la culpabilité du péché fait d'eux des créatures misérables, quels que soient les plaisirs temporels dont ils ont pu jouir. Ils sont misérables, perdus, aussi longtemps que Dieu est en colère contre eux. Ils n'ont aucune force et ils périront éternellement si Dieu ne les secourt pas. Les hommes, et quand je parle des hommes, vous l'avez compris, les femmes sont comprises automatiquement. Donc, vous avez compris, les hommes et les femmes doivent voir le désespoir total de leur situation en dépit de toute aide humaine extérieure. Ils se balancent au-dessus de l'abîme d'une misère éternelle où ils doivent nécessairement tomber un jour ou l'autre, à moins de bénéficier de la miséricorde divine. L'homme qui vient véritablement à Dieu pour recevoir son pardon s'approche comme un mendiant qui cherche sa miséricorde et sa grâce souveraine et imméritée, non comme un créancier qui exige quelque dû. L'homme qui vient d'une manière correcte pour obtenir miséricorde ne trouve pas de faute dans la sévérité de Dieu. Bien au contraire, il vient dans une conscience de son indignité totale, comme un condamné. J'ai fait partie de ceux-là, et il se prosterne dans la poussière aux pieds de la miséricorde divine. Car la miséricorde de Dieu s'obtient en Jésus-Christ et par lui seul. Tout espoir de miséricorde vient de la considération de sa personne, de son œuvre et de ses souffrances. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom parmi les hommes que celui de Christ par lequel nous devrions être sauvés. Il est le Fils de Dieu, il est le Sauveur du monde, et son sang purifie de tout péché. Sa dignité est telle que tout pécheur trouve en lui peut être tout à fait sauvé et accepté. Donc venir à Dieu pour chercher miséricorde, cela implique que le pécheur possède quelques espoirs de l'obtenir. Sinon, il ne prendrait pas la peine de venir. Ceux qui viennent d'une manière correcte placent tout leur espoir en Christ, comprenant qu'il a accompli une rédemption parfaite. Les péchés de ceux qui viennent ainsi à Dieu ne présentent aucun obstacle à leur pardon. Leur multitude, leur, on peut dire, énormité ou la gravité des péchés, cela n'entraîne chez Dieu aucune réticence à les pardonner. Cela ressort des réflexions suivantes. Écoutez bien attentivement. Premièrement, nous avons la miséricorde de Dieu qui suffit au pardon qu'il s'agisse des plus grands péchés ou des plus petits, car c'est une miséricorde infinie. L'infini se place bien au-dessus de ce qui est si grand et de ce qui est petit. Ainsi, dans sa grande infinie, sa grandeur infinie, eh bien Dieu, il surpasse autant les rois que les mendiants, il surpasse le plus grand ange comme le plus misérable vermisseau. Une grande mesure ne s'approche pas davantage des limites de l'infini qu'une autre mesure. Ainsi voyez-vous, la miséricorde de Dieu étant infinie, elle doit suffire au pardon de tous les péchés, comme elle le fait pour un seul. Si le plus petit des péchés n'y trouve pas porte close, alors le plus grand non plus, ni même 10 000 d'entre eux. Il faut cependant reconnaître que ce point à lui seul ne fonde pas toute la doctrine. En effet, même si la miséricorde de Dieu suffit autant pour le pardon des grands péchés que pour les autres, il peut y avoir d'autres obstacles. La miséricorde peut suffire, alors que d'autres attributs s'opposent à sa dispensation dans ce cas. Deuxièmement, l'œuvre de Christ pour satisfaire la justice offensée de Dieu suffit autant pour ôter la plus grande culpabilité que la plus petite, car le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Premier épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 7, et Actes, chapitre 13, verset 39. Si Dieu, qui l'affirme, si Dieu dit la vérité, Christ a donné satisfaction pour tous les péchés, quels qu'ils soient, de ceux qui viennent réellement à Dieu pour recevoir sa miséricorde. Et si la justice de Dieu a reçu satisfaction, qui nous empêche de croire qu'il accepte de les pardonner. Christ ayant donné entière satisfaction ou ayant accompli une satisfaction suffisante pour tous les péchés, il est conséquent avec la gloire des attributs divins de pardonner les plus grands péchés de ceux qui viennent à Dieu de la bonne manière pour recevoir son pardon. Dieu peut donc maintenant leur pardonner sans aucun préjudice à l'honneur de sa sainteté. Celle-ci ne lui permet pas d'accorder la moindre faveur au péché. Elle le pousse à témoigner clairement de sa haine à cet égard. Mais Christ a donné satisfaction pour le péché et Dieu peut maintenant aimer le pécheur sans accorder aucune faveur au péché, quelle qu'elle pût être la culpabilité de ce pécheur-là. L'aversion divine du péché, elle s'est manifestée avec clarté et de manière suprême quand Dieu déversa sa colère sur son Fils bien-aimé. Lorsque celui-ci s'est chargé de la culpabilité de nos péchés, la damnation de l'humanité entière pour l'éternité n'en aurait pas donné un aussi grand témoignage. À travers Christ, Dieu peut pardonner le plus grand pécheur sans aucun préjudice à l'honneur de sa majesté qui exige une satisfaction effective. Or, les souffrances de Christ réparent pleinement le tort qui a été infligé. Quelle qu'ait été l'énormité du mépris, si un homme, et j'ajoute la femme, vous l'avez compris, si un homme d'un honneur aussi grand que celui de Christ se charge de la méditation en faveur du coupable et souffre à ce point pour lui, cela répare entièrement le préjudice infligé à la majesté céleste. Les souffrances de Christ apportent une pleine satisfaction à la justice. Dieu est le juge suprême. Il est le gouverneur du monde. Sa justice exige la punition du péché, car il doit juger le monde selon une règle de justice. Dieu ne montre pas sa miséricorde en tant que juge, mais en tant que souverain. Ainsi, l'exercice royal de sa miséricorde et celui de sa justice, le juge, on peut dire de juge, doivent donc s'accorder mutuellement. Je répète pour que ce soit pas mal compris. Ainsi, l'exercice royal de sa miséricorde et celui de sa justice de juge doivent s'accorder mutuellement. Ceci s'accomplit par les souffrances de Christ dans lesquelles le péché est entièrement puni et la justice satisfaite. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, par ceux qui croient, victime propitiatoire, afin de monter sa justice, parce qu'il y avait, il avait laissé impuni les péchés qui ont été commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, et cela de manière à être juste tout en justifiant celui et celle, évidemment, qui a la foi en Jésus. Romains chapitre 3, versets 25 et 26. La loi ne constitue plus un obstacle sur le chemin du pardon du plus grand péché si les hommes viennent réellement à Dieu pour recevoir sa miséricorde. En effet, Christ a accompli la loi, il en a supporté la malédiction dans ses souffrances. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit et quiconque est pendu au bois » Galates chapitre 3, verset 13. Troisièmement, Christ ne refusera pas de sauver les plus grands pécheurs s'ils s'approchent de Dieu de la bonne manière, car il est venu dans le monde pour accomplir le salut des pécheurs. Le péché est précisément le mal auquel il est venu apporter un remède. Il ne rejettera donc aucun homme sur la base de son état de pécheur. Plus cet homme est pécheur, plus il a besoin de Christ pour être délivré de son péché. Délivrer l'homme de sa condition pécheresse, ça, c'est la raison même de la venue de Christ dans le monde. Ce ne sont pas ceux qui se portent trop bien qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Je ne suis pas venu, dit Jésus, je suis pas venu appeler des justes, mais je suis venu pour appeler des pécheurs. Saint Matthieu, chapitre 9, versets 12 et 13. Le médecin ne refuse pas de guérir celui qui s'adresse à lui, parce que cet homme a grandement besoin de son aide. Si cela est dans ses capacités, il ne refuse sûrement pas d'aider ceux qui ont le plus besoin de guérison. Quatrièmement, la gloire de la grâce par la rédemption de Christ, elle se trouve ici. Elle suffit au pardon des plus grands pécheurs. Tout le dispositif de la voie du salut vise à glorifier la grâce souveraine de Dieu. Depuis toute éternité, Dieu désire glorifier cet attribut, et c'est dans ce cadre qu'il a conçu le mécanisme du salut des pécheurs par Christ. La grandeur de la grâce divine y apparaît très clairement, car Dieu par Christ sauve les plus grands rebelles. Plus la culpabilité d'un pécheur est grande, plus la gloire et la merveille de la grâce divine se manifestent dans son pardon. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. Notez Romains, chapitre 5, verset 20. En parlant de l'énormité de son péché, l'apôtre note l'abondance de la grâce qui a pardonné une si grande culpabilité. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, oui, moi, j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, par stupidité, dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui se trouvent en Jésus-Christ. 1 Timothée, chapitre 1, versets 13 et 14. Le Rédempteur se glorifie en sa capacité de racheter les pires pécheurs, en ce que son sang précieux suffit pour laver la plus grande culpabilité, en ce qu'il est capable de sauver parfaitement et de racheter même de la plus grande misère. Christ se fait donc un honneur de sauver les plus grands pécheurs lorsque ceux-ci viennent à lui, comme c'est l'honneur d'un médecin de guérir les malades les plus désespérés. Christ désire certainement sauver les plus grands pécheurs quand ils viennent à lui, car il ne rechigne pas à se glorifier et à faire l'éloge de la valeur et de la vertu de son propre sang. Puisqu'il s'est donné ainsi pour le salut des pécheurs, il ne sera pas réticent à montrer sa capacité à les sauver parfaitement. Et cinquièmement, Dieu offre et promet le pardon aux plus grands pécheurs autant qu'aux autres, s'ils viennent à lui de la bonne manière pour obtenir miséricorde. Les invitations de l'Évangile s'expriment toujours en termes universels, c'est-à-dire quiconque a soif, venez à moi. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Quiconque veut qu'il vienne, eh bien la voix de la sagesse divine, elle s'adresse aux hommes en général. Hommes, femmes, c'est à vous que je crie et ma voix, elle s'adresse au Fils de l'homme. Proverbe chapitre 8, verset 4. Il n'est pas dit, hommes, vous qui êtes de grande moralité, ou vous qui êtes très religieux, mais il est dit, homme, c'est à vous, qui que vous soyez. C'est ce que Christ a promis. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Johannes, Saint Jean, chapitre 6, verset 37. Il instruit ses apôtres après sa résurrection. Il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, et j'ajoute, vous l'avez compris, celle qui croira et qui sera baptisée, elle et lui seront sauvés. Saint Marc, chapitre 16, versets 15 et 16. Ceci correspond aux paroles de l'apôtre. L'évangile a été prêché à toute créature sous le ciel, selon Colossiens, chapitre 1, verset 23. Cette vérité vise à encourager les pécheurs dont un sentiment de culpabilité accable la conscience à courir vers Dieu par Christ pour obtenir miséricorde. Si vous venez de la manière que nous avons décrit, eh bien les bras de la miséricorde vont s'ouvrir pour vous accueillir. Gloire à Dieu. Vous n'avez aucune raison d'hésiter à cause de vos péchés aussi sale soit-il, même si votre âme portait autant de culpabilité que tous les malfaiteurs de ce monde et tous les damnés de l'enfer réunis, vous n'aurez aucune raison d'effroi, pourvu que vous veniez à Dieu avec la conscience de votre propre bassesse pour chercher le pardon uniquement dans sa miséricorde gratuite en Jésus-Christ. L'énormité de vos péchés n'est pas un obstacle à votre pardon. Si donc votre âme est affligée, si la crainte de l'enfer vous pèse, vous n'avez aucun besoin de porter ce fardeau et cette peine un instant de plus. Si seulement vous le voulez, vous pouvez librement venir et vous décharger de tous vos fardeaux, les remettre à Christ et vous reposer en lui. On élève parfois des objections à l'écoute de telles exhortations. Chers amis, j'ai passé ma jeunesse et le meilleur de ma vie dans le péché. Je crains que Dieu ne m'accepte pas, car je n'ai que mon âge avancé à lui offrir. C'est pas drôle. Ce n'est pas drôle. C'est à peu près, à peu de choses près, mon histoire. Moi qui ai maintenant 90 ans. Chers amis, Dieu a-t-il dit quelque part qu'il n'accepterait pas les pécheurs qui ont un âge avancé? Y a-t-il une telle exception aux offres et aux promesses qu'il lance en termes universels? Christ dit-il, il dit quiconque a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, excepté les très vieux pécheurs. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, excepté les vieux grigous, et je vous donnerai le repos. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, pourvu qu'il ne soit pas un pécheur de grand âge. Chers amis, il m'arrive parfois de plaisanter. C'est pas grave, tant que c'est dans les normes de l'éthique. J'aimerais vous demander, avez-vous lu une telle exception quelque part dans la Sainte Bible? Pourquoi alors accepter des exceptions que vous façonnez dans votre propre cerveau? Ou que le diable y met plutôt, mais qui n'ont aucun fondement dans la sainte parole de Dieu. Oui, il est vrai qu'un pécheur âgé désire plus rarement venir que les autres. C'est vrai. Mais s'il vient, il sera accepté tout aussi volontiers que n'importe quel autre. Lorsque Dieu reçoit les jeunes, le fait-il en vue du service qu'il lui rende par la suite, oui ou non? Ou bien faut-il dire que la jeunesse est plus acceptable que la vieillesse? Vous vous trompez, mais complètement, en pensant que Dieu ne vous recevra peut-être jamais à votre âge avancé, comme si la jeunesse méritait davantage son acceptation. Non, non, non. Dieu accueille quelqu'un uniquement, oui, uniquement à cause de Jésus-Christ. Votre vie est presque entièrement vécue, dites-vous, et vous craignez que le meilleur moment pour servir Dieu ne soit passé, ce qui entraînerait son rejet, comme s'il recevait les hommes à cause du service qu'ils lui rendront après leur conversion. C'est un peu comme si ça serait par les mérites. Oh non, heureusement que ce n'est pas à cause des mérites. De telles objections reposent sur un esprit pharisaïque. Les hommes ne peuvent se défaire de l'idée que Dieu les reçoit favorablement à cause de quelque bonté ou de quelque service venant d'eux-mêmes, déjà réalisé ou prévu autrefois. Oui, voyez-vous, ceux qui ont refusé à Dieu leur jeunesse et la meilleure partie de leur vie pour la consacrer au service de Satan pêchent, évidemment, et provoquent terriblement leur Créateur, ça c'est vrai. Celui-ci abandonne très souvent les hommes à la dureté de leur cœur lorsqu'ils avancent en âge. Mais s'ils sont prêts à se tourner vers Christ dans leur âge avancé, il les accueille tout autant que n'importe quel autre, car il n'a de ce domaine-là d'égard que en Christ et en ses mérites. Donc, il n'est pas nécessaire de rester un vieux grincheux qui a de l'amertume parce que tout n'est pas allé comme il a voulu. Chers amis, j'ai peur d'avoir commis des péchés particuliers ou particulièrement graves. C'est ce que quelqu'un m'a dit. J'ai péché contre la lumière et contre les fortes convictions de ma conscience avec présomption. Et j'ai tant résisté aux impulsions de l'Esprit Saint de Dieu que j'ai peur d'avoir commis les péchés qu'aucun élu ne commet. Je ne peux imaginer que Dieu laisse continuer à commettre de tels péchés celui qu'il envisage de sauver. D'autres diront peut-être, mon cœur s'est élevé contre Dieu avec des pensées blasphématoires, avec un esprit venimeux et malveillant, et j'ai abusé de la miséricorde et des impulsions de l'Esprit Saint. J'ai piétiné le Sauveur, et mes péchés sont caractéristiques des réprouvés. Eh bien, chers amis, aucun péché, oui, aucun péché n'est propre au damné, sauf celui contre le Saint-Esprit. La Sainte Parole de Dieu en indique-t-elle d'autres? Eh bien, non. Alors, quel fondement avez-vous pour penser une telle chose? Quelle autre règle avons-nous par laquelle nous puissions juger de telles questions? Si nous nous aventurons au-delà de la parole, nous errons misérablement dans l'obscurité. Lorsque nous osons aller plus loin que la sainte parole de Dieu, et cela dans nos déterminations, alors Satan prend la relève et il nous entraîne au loin. Vous semble-t-il que de tels péchés sont propres aux damnés et que Dieu ne peut pas les pardonner? Quelle raison donnez-vous pour cela? Si la sainte parole de Dieu ne le relève même pas, est-ce parce que vous ne pouvez pas voir comment la miséricorde divine suffit ou comment le sang de Jésus-Christ purifie de tels péchés présomptueux? Alors, vous n'avez pas encore saisi la grandeur de cette miséricorde ni la perfection de ce sang. Vous ne savez pas jusqu'à quel point s'étend sa vertu. Certains des élus se sont rendus coupables de toutes sortes de péchés, à l'exception de celui contre le Saint-Esprit, à moins que vous ne soyez coupable de ce péché-là, qui est une incrédulité caractérisée face à la lumière de Dieu, alors vous n'avez aucun péché qui serait propre aux damnés. Les hommes ont peut-être plus de difficultés à croire en raison des péchés qu'ils ont commis que les femmes. Mais ils ne sont pas moins volontiers pardonnés lorsqu'ils croient. Il est vrai que certains péchés sont davantage exposés à l'enfer que d'autres. Bien que tous soient en grand danger, certains ont moins de probabilité de parvenir au salut. Ils ont moins de chances de se convertir et de venir à Christ. Mais ceux qui viennent à lui sont tous accueillis volontiers. Tout homme a autant d'encouragement à venir à Christ que n'importe quel autre. Vous mentionnez effectivement des péchés odieux et provoquants à l'extrême. Ils placent d'une manière particulière l'âme en danger de damnation, c'est vrai, où elle risque d'être laissée à la dureté finale du cœur. Or, Dieu abandonne plus souvent les hommes au jugement à cause de la dureté qu'entraînent ses péchés plutôt que d'autres. Pourtant, voyez-vous, ils ne sont pas propres aux damnés, car un seul péché l'est, c'est-à-dire à savoir celui contre le Saint-Esprit que j'ai déjà mentionné. En dépit des péchés que vous avez commis, si le désir de venir à Christ et de vous approcher de lui se trouve dans votre cœur, vous ne serez pas accepté moins volontiers à cause de ces péchés-là. Si Dieu laisse certaines catégories de pécheurs venir plus rarement à Christ que d'autres, cela ne vient ni de l'insuffisance de sa miséricorde, ni de celle de la rédemption de Christ pour eux, mais de ce que dans sa sagesse, il trouve bon de dispenser sa grâce de façon à restreindre la méchanceté des hommes. Il décide aussi d'accorder la grâce de conversion au travers de l'utilisation de moyens parmi lesquels figure une vie morale et religieuse, sensible à la lumière et aux convictions de la conscience. Mais dès qu'un pécheur veut venir à Christ, la miséricorde lui est aussi accessible que pour n'importe quel autre. Dieu ne s'arrête pas à ses péchés, quels qu'ils soient. Il ne se les rappelle pas et ne l'en réprimande pas. Chers amis, surtout ne dites jamais « Je préfère attendre d'être meilleur avant de venir à Christ. » J'ai été et je me vois comme étant encore très mauvais. Mais j'ai l'espoir de m'améliorer un peu avec l'âge. Alors j'aurai davantage de courage pour venir demander à Dieu sa miséricorde. Vous n'agissez pas très sagement, mes chers amis. Vous cherchez à vous établir comme votre propre sauveur. Vous cherchez à trouver en vous la base sur laquelle Dieu vous accueillera plus volontiers. Vous ne cherchez donc pas à être accepté uniquement à cause de Jésus-Christ. N'est-ce pas là de lui dérober la gloire d'être votre unique sauveur? C'est pourtant la voie par laquelle vous espérez rendre Christ un peu plus enclin à vous sauver. Vous ne pouvez pas venir, chers amis, à Christ du tout, à moins de voir qu'il ne vous recevra pas plus volontiers en raison de quelques œuvres de votre part. Comprenez bien qu'il vous est totalement futile d'essayer de vous rendre meilleur sur une telle base. Il vous est impossible de vous rendre davantage digne ou être moins indigne, simplement par un quelconque acte de votre part. Si vous voulez véritablement venir à Christ, vous devez voir et vous devez comprendre qu'il suffit simplement pour votre pardon que votre péché soit mauvais ou si que vous soyez une crapule. Si vous ne voyez pas la pleine capacité de Christ à pouvoir vous pardonner sans aucune justice ou mérite de votre part, vous ne vous approcherez jamais, jamais de lui d'une manière acceptable. La voie d'acceptation, elle consiste à venir non pas en pensant être parvenu à un état beaucoup meilleur et moins indigne, mais en vous appuyant simplement sur la seule valeur de Jésus et sur la miséricorde de Dieu le Père. Pour venir véritablement à Christ, il vous faut venir à lui afin qu'il vous rende meilleur. Venez simplement comme un patient qui vient à son médecin pour être enfin guéri de ses maux. Étalez donc toute votre méchanceté devant Jésus et ne plaidez pas votre bonté à vous. Déclarez simplement votre méchanceté telle qu'elle est et le besoin qui en résulte. Ne dites pas « Pardonne mon iniquité, car elle n'est plus aussi grande. Je vais me réformer, je vais m'améliorer. » Mais avouez avec le psalmiste « Pardonne, ô Dieu le Père, mon iniquité, car elle est grande. » Chers amis, nous terminons ici par la prière, mais je dois vous dire une chose importante. La série concernant ce salut vraiment très élaboré ne se termine pas aujourd'hui. Je vous prie, si vous avez la possibilité, d'écouter la suite de cette série, car il y a encore des choses très, très importantes pour vous. Et c'est mon devoir de vous les expliquer. C'est vraiment mon devoir, car je vous aime. Chers amis, prions. Seigneur, c'est toujours auprès de toi seul que nous pouvons nous réfugier avec sûreté dans toutes les circonstances de notre vie, car c'est toi seul qui peux nous protéger, soutenir nos forces et notre espérance et nous donner des sentiments inébranlables de confiance et de paix. Cette confiance qui vient de toi, ô notre Dieu et notre Père, nous fera sentir profondément que toutes tes voies sont des voies de sagesse et de justice, lors même que notre intelligence ne saurait les comprendre, et lors même qu'elles portent dans nos cœurs l'affliction ou l'épouvante. Cette paix que tu répands dans l'âme de tes enfants, nous soutiendra, nous fera tout supporter sans trouble et sans agitation, et nous ne craindrons pas quand même il te plairait de nous éprouver par de violentes secousses. Seigneur, daigne accorder à chacun de nous ces dispositions si précieuse, mais pour qu'elle puisse se développer dans nos âmes, détourne nos regards de cette terre et daigne les élever vers les demeures célestes et vers le prix de la course qui nous est proposée, afin que la pensée de notre avenir éternel et de notre salut en Jésus-Christ, notre unique Sauveur, soit la source de notre joie et nous remplisse constamment d'espérance. Seigneur, daigne rétablir autour de nous la paix, la sécurité, fais échouer tous les complots de troubles et de dévastation. Ô daigne avoir pitié de tous ceux qui s'égarent, de tous ceux qui se livrent à des sentiments de haine et de violence. Que ta puissance réprime de déplorables désordres et que, à la tourmente des passions déchaînées, succède la paix de ton règne dans les âmes. Ô Seigneur, notre Dieu, nous te supplions de nous bénir et de nous diriger pendant cette journée, de bénir aussi nos chères familles, nos amis, et d'avoir compassion de tous les affligés et de toutes les familles en deuil et dans les larmes. Ô Seigneur, étends ta main vers nous et daigne exaucer nos prières au nom de ton Fils bien-aimé, notre seul appui et notre seule espérance. Amen. Et chers amis, vous le savez, Dieu vous aime. Et je vous aime également, c'est mon devoir. De tout mon être, et je vous embrasse maintenant tous avec toute la ferveur de mon amour. Et soyez bénis, et à demain, Dieu voulant, pour la suite de cette série très importante pour vous. Au revoir.